La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Bienvenue à vous tous ici, dans ce lieu, pour partager ce moment de prière, de chant, de réflexion et de louange. Nous sommes tous réunis ce matin à l'oratoire du Louvre et j'ai le plaisir de retrouver ma consœur près de moi, voilà, qui a trois jambes, mais ça devrait aller. Et donc nous allons avoir la chance de pouvoir partager ce dimanche encore un baptême et une confirmation. Et donc nous sommes très très heureux d'accueillir les familles, les amis qui sont venus avec la petite baptisée, qui est un petit peu intimidée, donc vous allez l'aider tout à l'heure à se sentir chez elle. Et puis la jeune fille qui va confirmer les vœux de son baptême aujourd'hui avec nous. Nous sommes tous réunis ici et au loin, il y a aussi ceux qui regardent par le biais des écrans et nous sommes ensemble ce matin avec vous dans ce moment de fête. Merci à Aurélien Péter d'être avec nous à l'orgue. Nous allons pouvoir partager ensemble ce moment de culte. Je vous invite à chanter le premier répond que vous allez trouver dans les psautiers français. Vous avez au début du psautier français toute la liturgie du culte avec les réponses. Je vous invite à chanter.
Psaume de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Et nous vous invitons à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 81. Et nous chanterons les strophes 1 à 6. À 5. Pardon. 1 à 5. Psaume 81, strophe 1 à 5. Prenez place. Écoutons maintenant la volonté de Dieu à notre égard et nous l'écouterons avec un extrait de l'Évangile de Matthieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira.
Nous nous présentons devant Dieu. Délivre-moi, Seigneur, de la paresse qui s'agite, déguisée en activité, de la lâcheté qui accomplit ce qu'on ne demande pas, afin d'éluder un sacrifice. Mais donne-moi l'humilité en qui seul est le repos, et délivre-moi de l'orgueil qui est le plus lourd fardeau. Pénètre mon cœur, toute mon âme, de la simplicité de l'amour. Amen. Thank you.
pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand Jésus fut baptisé par Jean, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie. » Cet amour de Dieu en Jésus-Christ est donné à tous. Chantons notre reconnaissance.
Je vous invite à vous asseoir le temps que nous accueillons la jeune fille qui va confirmer les vœux de son baptême, qu'il a demandé à cette église. Je vais te demander de t'approcher de nous, Lison, pour viens avec nous ici. Bienvenue, Lison, bienvenue dans ce moment particulier pour toi et pour nous. Nous avons eu la chance de nous connaître déjà depuis le poste précédent pour moi. Et donc, c'est une continuité aujourd'hui qui s'inscrit avec Lison, qui était déjà dans la paroisse où j'étais pasteur précédemment. Et ce fil tendu, il y a très longtemps avec sa famille, est toujours là, vivant. Et je suis très reconnaissante de cela. Et nous sommes très heureuses avec Agnès d'accueillir Lison à l'oratoire du Louvre pour qu'elle puisse elle-même dire ce qu'elle souhaite faire de son baptême, de son parcours, en ayant appris à lire les textes bibliques, en ayant fait ce chemin dans une communauté qui l'a aidée, accompagnée, entourée, où elle a vécu des choses collectivement très importantes. Et nous sommes donc ici pour faire signe dans ce monde, que cet accueil change la vie. Lison, le jour de ton baptême, tu as été déclaré enfant de Dieu. Aujourd'hui, l'Église t'offre la possibilité de t'engager personnellement dans ce chemin. Lison, est-ce par une démarche sincère et volontaire que tu confesses aujourd'hui ta foi dans cette Église ?
Oui.
Alors, Lison, parle en conscience. Je vais te laisser partager avec nous la façon que tu as de dire ta foi.
Pour moi, faire ma confirmation signifie reconnaître le baptême et concrétiser l'entrée dans la communauté. Reconnaître le baptême, oui, car je crois en Dieu. C'est un ami de confiance qui me guide et avec qui je peux facilement me recueillir. De même pour la communauté, pour moi, c'est comme une deuxième famille qui ne te juge pas, qui te tient par la main et qui t'aide avec la foi qu'elle peut aussi t'apporter.
Lison, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Voilà, je vais inviter maintenant la marraine de Lison qui est avec elle. Voilà, à venir l'embrasser pour ce moment particulier. Et les parents de Lison ont le droit aussi. Et puis alors, je connais toute la famille. Il y a toutes les petites sœurs, les grandes sœurs voilà, qui sont là avec nous. Voilà. Voilà, c'est un moment de grande joie pour nous. Vous êtes ici les témoins de ce moment que nous venons de vivre et je vous invite à prier ensemble. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Lison. Nous te prions pour elle et pour ses proches et nous te remercions pour la fidélité de ton amour. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble le cantique 200, les strophes 1 à 3. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant inviter la famille de la petite baptisée qui n'ose plus me regarder. Pourtant, on se connaît bien. Mais là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions à être ici dans ce grand lieu avec vous tous autour. Et donc, voilà, on va accueillir Lauriane et Kevin avec leur fille, leur garçon aussi, Raphaël, qui avait reçu le baptême ici même d'un de mes confrères. Voilà. Lauriane et Kevin, vous avez souhaité que votre fille reçoive le baptême. L'Église aujourd'hui accueille votre souhait avec joie. Voici la volonté de Jésus pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Lauriane et Kevin, votre petite fille va être baptisée au nom du Père, qui lui donne le souffle de vie, au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour elle. Il l'appelle à son service. Vous allez voir votre fille baptisée au nom du Saint-Esprit qui a fait naître en elle, nous l'espérons, qui le fera peut-être, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, de l'eau tout à fait ordinaire, et avec l'eau du baptême, elle devient l'eau du sacrement du baptême, avec la parole de Dieu, l'eau qui devient signe, signe visible d'une grâce invisible. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que ensemble nous vivons de l'amour de Dieu. C'est ce que nous croyons. Et je vais maintenant vous inviter à présenter votre fille au baptême. Quel prénom avez-vous choisi pour votre fille ?
Thaïs Maritza Chiara.
Très bien.
Et si on se mettait dans le...
Thaïs, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Thaïs, pour toi aussi, cette parole est vraie. Tu as tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, en fait, ils ne sont pas frères et sœurs pour rien. Alors, je vais inviter le papa de notre petite Thaïs à dire quelques mots comme il l'avait souhaité. Ça va aller, Kevin ? Peut-être que Raphaël peut se mettre par terre maintenant. Voilà, t'es un grand garçon. Tu crains rien ici, tu sais, c'est ta maison. Il n'y a pas de problème.
Voilà, merci. Bon, c'est juste quelques phrases. Voilà, Thaïs, je te souhaite une longue vie. Une longue vie en bonne santé. Voilà, dépasser allègrement les 2110. Voilà. Et puis, je suis pas contre de t'accompagner le plus longtemps possible aussi. Voilà, je te souhaite une vie heureuse, pleine de bienveillance, entourée de ta famille, de tes amis, pleine de rencontres, de projets, de créations, de voyages, de rires et d'amour. T'abreuver de connaissances dans tous les domaines, être curieuse de tout, t'émerveiller, t'indigner aussi, t'épanouir, être heureuse et rendre heureux. Voilà.
Merci. Merci beaucoup pour ces mots. Alors, excusez-moi, là c'est le moment où je suis perdue. Voilà. Voilà, je vais maintenant aller avec Lauriane parce que je ne vais pas me risquer à emmener Thaïs dans mes bras. Je pense qu'elle est trop impressionnée pour ça. Donc je vais l'emmener avec sa maman dans cette assemblée pour vous présenter cette petite fille. Voilà, et Lison, tu peux venir avec nous si tu veux bien pour que les gens te connaissent et t'accueillent aussi. Voilà, allez-y Lauriane, avancez devant moi. Voici Thaïs, c'est maintenant votre sœur dans la maison de Dieu, elle est ici, chez elle, vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille et à ses proches, le soutien de votre prière. Voici Lison, vous serez pour elle une deuxième famille, comme elle vous l'a demandé tout à l'heure dans sa confession de foi. C'est ce qu'elle espère dans cette église, que nous soyons pour elle une deuxième famille, un lieu d'accueil, un lieu de ressourcement et un lieu où quand elle frappe à la porte, on lui ouvre, quand elle demande, on lui donne, c'est-à-dire mettre en application ce que le Seigneur nous a commandé de faire. Peut-être ces jeunes-là, un jour, viendront à se séparer de l'église. Si c'était le cas, vous affirmerez qu'elles peuvent toutes les deux toujours y retrouver leur place. Ce sera ainsi le signe pour elles que le salut de Dieu est absolument gratuit et l'amour de Dieu absolument inconditionnel. Voilà. Je vous invite maintenant à écouter la méditation de Thaïs en hommage à ce beau moment que nous venons de vivre avec Lison et Thaïs. Merci. Merci Aurélien pour ce beau moment. Je vais maintenant remettre à Lison ce cadeau de la part de l'Oratoire du Louvre et de notre part à toutes les deux, Agnès et moi, pour la suite de ton chemin dans cette église, mais aussi dans les églises où on t'accueillera, où tu continueras cette route. Nous avons à cœur de pouvoir continuer avec toi quand tu le souhaites, ce chemin d'étude et de questionnement sur les textes bibliques. Et donc, nous voulons montrer avec ce cadeau que voilà, tu as les outils nécessaires que tu avais sans doute déjà, mais en tout cas, ça, maintenant, c'est ta Bible à toi que tu peux emporter partout et avec laquelle tu pourras cheminer encore. Ce matin, j'ai choisi un texte évidemment très connu, mais qui est toujours tellement riche qu'il mérite qu'on s'y penche de nouveau. Dans l'évangile de Jean, les chapitres 1, versets 1 à 17. Il s'agit du prologue de l'Évangile. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de la volonté de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié, c'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Je vous invite à chanter le cantique 172, les strophes 1, 2 et 3, dans les louanges et prières. Prions ensemble. Éternel, bénis notre lecture. Permets que nous puissions voir dans les mots anciens les paroles pour aujourd'hui, pour notre vie d'aujourd'hui. Que ces paroles venues de loin, parfois si hermétiques à notre compréhension, deviennent lumière sur nos chemins. Amen. Le prologue de l'évangile de Jean apparaît comme un ovni parmi les textes bibliques, comme un moment hors du temps, un discours symbolique qui surplombe tous les discours sur Jésus et donne une dimension cosmique à un acte pourtant si courant pour l'espèce humaine, parler. Si de nos jours les recherches sur les animaux montrent de plus en plus la richesse extraordinaire des langages qu'ils élaborent pour communiquer entre eux ou avec les autres espèces, parler reste l'activité et la grandeur caractéristique de l'être humain. Dans ce prologue qui résonne comme un programme, la parole personnifiée semble exister plus que les personnages dont il est question dans le texte. La parole préexiste au temps. Elle est présente dès les commencements immémoriaux du temps, les commencements du monde. Elle est auprès de Dieu et le texte s'aventure à dire qu'elle est Dieu. Les églises qui ont reçu ce prologue ont fait un programme divin, de ce qu'elles ont appelé le mystère de l'incarnation. Mais s'agit-il vraiment ici d'un mystère ? Au sens où l'incarnation de la parole serait une chose cachée, incompréhensible ou réservée aux seuls initiés. Aujourd'hui, la parole s'est incarnée à plusieurs reprises dans le moment que nous avons vécu ensemble, lors du baptême de la petite Thaïs, et quand Lison a pris la parole pour dire sa foi et sa façon propre de la vivre. On pourrait dire que le sacrement du baptême met en jeu un mystère qui consiste à faire de l'alliance entre le geste de baptiser et les paroles qui sont dites un acte surnaturel qui introduirait du divin dans le monde des humains. Pourtant, notre compréhension protestante du sacrement est claire sur ce sujet. Le sacrement est signe d'une grâce invisible, un signe. Comme les lettres d'un alphabet, comme le geste de la langue des signes, comme ce que le corps fait pour incarner une parole. Un signe n'est pas un mystère, mais une parole qui s'incarne. Pour qu'un sacrement puisse avoir lieu, il faut que des corps incarnent une parole, venue de loin ou non, mais qui rend visible le rapport très intime d'une personne ou d'une communauté à la signification de mots énoncés dans une culture donnée, et qui font religion en reliant la foi des anciens à celle des contemporains. Incarner une parole sacramentelle relève ainsi plus d'une présentification, comme disait Søren Kierkegaard, que d'un mystère. Une façon de rendre actuelle, présente, des choses anciennes et les rendre présentes différemment puisque les rendre présentes dans le monde contemporain. Rien n'est alors caché, mais au contraire, la parole est partagée et rendue proche et presque palpable par l'incarnation qui en est faite. Dans la tradition catholique, le mystère vient du caractère sacré du prêtre. Dans le protestantisme, il n'est pas besoin de faire endosser des choses sacrées à celles et ceux qui incarnent les paroles pour que celles-ci deviennent signes visibles d'une grâce invisible. Être porteur de signes, sémaphore de la foi, n'est pas réservé au seul pasteur. Le baptême et la cène peuvent très bien avoir lieu avec ou sans pasteur, car ce n'est pas la présence d'un clerc, et le pasteur n'est pas un clerc, qui change la nature du signe. C'est la réception de la communauté. Et si le pasteur incarne une parole pour la communauté, c'est dans une logique de service de la communauté pour lequel il est mandaté et en aucun cas pour une différence de nature entre lui et les autres membres de l'Église. S'il y a différence de service, il n'y a donc pas différence de dignité. On comprend à ces nuances sur la question du sacrement que l'incarnation peut vite devenir le lieu d'un pouvoir particulier. Qui pourrait dire les paroles sacrées ? Qui pourrait rendre le geste efficace ? Qui a le pouvoir de cela ? Incarner une parole,
c'est être la parole, selon des conditions particulières qu'il faut sans cesse définir. Il est intéressant de noter que c'est autour du baptême et des deux figures de Jean et de Jésus que se met en scène dans les évangiles la question de l'incarnation. Bien sûr, il y a les récits de nativité qui mettent en place la question de l'incarnation du divin dans l'humanité. Mais le baptême, lui, nous parle de l'incarnation de la parole dont l'Og nous dit qu'elle est Dieu. Si, dans nos Bibles, seuls deux évangiles se lancent dans l'incarnation biologique avec le récit de la naissance de Jésus, avec toutes les difficultés que présentent ces récits, les quatre, en revanche, nous parlent du baptême comme moment inaugural de l'incarnation de la parole de Dieu. Comme si le signe que Jean le Baptiste posait avant que Jésus ne vienne le recueillir était la grammaire du langage des évangiles et que Jésus allait lui donner chair, qu'il allait donner à tous ces symboles un sens particulier, une signification incarnée. La chair est une notion difficile à résumer. Ce n'est pas la viande, mais en même temps, c'est la matière du corps. Ce n'est pas la métaphore des sens, mais en même temps, sans les sens, la chair n'est rien. Ce n'est pas la biologie de nos vies, et en même temps, sans notre caractère mortel, la chair n'a plus de sens. La compréhension de l'incarnation dépend de la signification que l'on choisit de donner à cette chair dont parlent les Écritures. Le prologue tente d'en donner tous les aspects. Il parle d'existence, de vie, de monde et de demeure, et tente d'expliquer comment la parole peut prendre chair. Dans le prologue de Jean, la parole vient comme une hôte dans le monde et y fait sa demeure. Elle habite une chair qui, sans elle, serait uniquement organique, matérielle, sans autre dimension symbolique. Mais on pourrait comprendre l'alliance entre la parole et la chair autrement et y voir une force de transformation que ferait de la chair un nouveau langage. La parole ne serait plus alors son hôte, mais une partie d'elle, une de ses modalités d'être. On pourrait aussi comprendre la chair comme tout ce qui est matériel et la parole comme tout ce qui donne une signification symbolique à cette matière. Alors l'incarnation ne serait plus seulement l'affaire de l'espèce humaine, mais le monde pourrait incarner lui aussi une parole. Comme dans le premier récit de la création, où les plantes, les océans et tout ce qui existe sur notre planète prennent sens par la création qui met en ordre le chaos et assigne une place particulière à chaque élément de l'écosystème, mettant de la parole, du logos, là où il y avait le désordre et l'incompréhension. Dans ces variations de perspective, la figure du Christ prend une signification plus vaste que celle de l'homme de Nazareth. Le Christ n'est plus un homme de chair et de sang, mais l'archétype de l'alliance entre la chair et la parole qui lui donne vie. Et à bien y regarder, c'est dans cet archétype que se joue notre accès à la parole de Dieu. Comment comprendre cette parole? Comment pourrait-elle nous concerner, nous qui sommes tout sauf des dieux? Inscrit sur la terre entre naissance et mort, avec nos facultés limitées et nos difficultés symboliques qui nous empêchent de communiquer ce que nous voudrions communiquer de plus essentiel. Le Christ représente cette nouvelle grammaire de notre chair à partir du moment inaugural de son baptême, qui marque le moment où l'homme de Nazareth devient par adoption de Dieu, par homologation divine, par onction divine, le Fils de Dieu. Il est le Christ, donné pour notre salut. Cette homologation passe par une parole d'amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie. Ainsi c'est cet amour qui rend Jésus Fils de Dieu, comme il nous ouvre le chemin pour devenir nous aussi enfants de Dieu. Si ce matin nous partageons une parole de grâce avec une enfant et une petite fille, c'est, comme le disait Lison, parce que cette grammaire de notre chair a besoin d'un lieu où exprimer l'amour qui donne la vie à la chair. C'est ce que j'appellerais la chair de la chair, la chair avec un E à la fin, le lieu où s'annonce la transformation de cette chair sans E. La chair, lieu de la parole dans lequel je me trouve, est le lieu que l'Église de Jésus-Christ dédie symboliquement à l'annonce de cet amour qui anime de façon particulière la chair, c'est-à-dire notre humanité, réalité de notre existence et de l'existence de notre monde. Mais ce lieu où je me tiens n'est que le signe symbolique de cette chair particulière où s'annonce le salut de Dieu. Car on peut, et à mon avis, on doit annoncer l'amour de Dieu aussi ailleurs que dans la chair des églises. La chair de la chair, c'est tout endroit où l'on peut incarner par nos gestes, nos paroles, nos actions, nos engagements, cet amour qui donne la vie à ce monde et que Jésus est venu annoncer par son service. C'est chaque fois que nous faisons la parole de Dieu vivante, que nous la rendons présente, que nous la rendons efficace, que cette chair est vraiment là pour annoncer que le Verbe s'est fait chair. La communauté sur laquelle Lison veut pouvoir compter est un des lieux où doit s'exprimer cet amour pour elle. C'est un des lieux où s'exprimera aussi l'amour de Dieu pour Thaïs. Cette communauté charnelle n'est pas le lieu de la perfection, puisqu'elle est elle aussi marquée par la finitude de la chair, par la peur, par le manque de foi, par l'ignorance, la vulnérabilité et la mort. Mais elle est le lieu de la proclamation d'une parole de salut pour le monde, reçue et partagée. Incarner la parole de Dieu, c'est être capable de promettre comme le faisait le Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et qui frappe, et à qui frappe on ouvrira. C'est ce texte qu'a choisi Lison pour sa confirmation. C'est ce passage de l'Évangile qui lui a parlé à elle. C'est cette parole qui s'est incarnée en elle. C'est se mettre au service de toutes celles et ceux qui veulent vivre de la parole de Dieu que de venir rejoindre tous ceux qui servent cette parole. Il faut donc que ce qui est prêché et annoncé dans les églises incarne véritablement la parole d'amour de Dieu. Ce n'est pas un exercice de rhétorique, c'est une façon de rappeler le rôle très important que nous avons dans ce monde. Il faut donc donner chair à nos chairs, donner chair à nos lieux d'annonce, à nos lieux de proclamation, pour qu'elles soient des lieux d'une parole d'engagement pour ce monde. Il faut donc donner chair à la chair et faire que la parole annoncée devienne l'affaire de tous et de toutes dans leur vie. Amen.
Je vous invite à chanter ensemble le cantique 213, les strophes 1, 2 et 3. Dans les louanges et prières, 213. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager ensemble quelques annonces. Et c'est, alors, il faut juste appuyer sur le bouton carré. Non. Je descends.
Oui, si, ça marche, regarde.
Bonjour à tous. Quelques annonces, effectivement, pour la semaine qui vient. C'est pas encore l'été, mais ça vient, ça commence à ressembler. Alors, ce week-end, vous l'avez peut-être vu en entendant le temple, et vous le verrez peut-être tout à l'heure dans la sacristie pour le petit accueil qui est organisé après le culte. C'était un week-end pour la commémoration de 100 ans de la création des scouts à l'oratoire du Louvre. Alors, ils sont tous partis. Hier, en fin de matinée, dans la région de Chartres, la météo n'était pas idéale. Hier soir, ils ont dû avoir un gros orage, comme on a eu à Paris. Bon, j'espère qu'ils ne reviendront pas trop mouillés en fin d'après-midi. Comme je viens de le dire, il y a un accueil après le temple dans la grande sacristie. Je crois qu'on a renoncé à le faire dans le jardin Coligny. Cette semaine, enfin cet après-midi, un grand moment à l'oratoire, puisque il y a le concert du chœur qui interprétera le requiem de Gabriel Fauré au temple à 17h. Venez nombreux, comme on dit d'habitude. En début de semaine, il y a des activités qui sont. Les dernières réunions cette année du groupe Protestants Artistes et du grec biblique, les cours reprendront l'année prochaine, enfin à la rentrée. Pour le GEPA, pour le groupe Protestants Artistes, je ne suis pas très sûr. Est-ce qu'il y aura encore un cours la semaine d'après ? D'accord. Bon. Cette semaine, c'est donc le rendez-vous suivant, c'est le jeudi de 12h30 à 13h30 au temple avec Agnès qui réussira à descendre de la maison presbytérale, surtout si l'ascenseur a réparé, mais quand même. Et puis le grand rendez-vous de cette semaine, c'est vendredi prochain à 19h30 pour la troisième année consécutive. Nos pasteurs recevront un certain nombre d'organisations pour la veillée des fiertés, avec également des représentants juifs et musulmans, d'accord, interreligieux. Et la chaire sera occupée par Emmeline Daudet, qui est pasteur à Montpellier. Dimanche prochain, Béatrice sera en congé. Elles sont toutes les deux là vendredi, mais peut-être plus dimanche. C'est donc Agnès qui assurera le culte avec Sainte-Seine. Et c'est vrai pour le culte de dimanche prochain, c'est vrai pour les deux cultes suivants. Et ensuite, il y aura un changement vers la mi-juillet, c'est ça ? Le 16 juillet, Agnès, ce sera le tour d'Agnès d'être partie en congé, et c'est Béatrice qui reprendra la chaire. Bonne semaine à tous, c'est maintenant le moment de l'offrande. Et donnez le cœur joyeux. Bon dimanche.
Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, je vous invite maintenant au temps de la collecte. Et donc, nos conseillers sont en train de s'orienter vers vous. Il y a un panier digital pour ceux qui en auraient besoin. Donc, signalez-vous en levant la main. Voilà, je laisse la parole à ma collègue qui a un petit mot à vous dire.
Oui, chers amis, je voulais vous dire d'abord ma joie d'être avec vous ce matin, j'allais dire en chair et en os. Vous remercier collectivement, fraternellement et individuellement pour tous les messages de soutien que j'ai reçus ces trois dernières semaines et qui m'ont fait un bien énorme et qui m'ont aidé à me soutenir dans cette sacrée épreuve tout de même. Vous dire que j'assurerai donc le culte dimanche prochain ici même. Si ma chair, C-H-A-I-R, me permet de me transporter jusqu'en haut de la chair, C-H-A-I-R-E, alors c'est tout gagné. Mais si je ne peux pas, par hasard, vous me pardonnerez et je resterai en bas pour faire le lien entre les deux.
Merci Agnès, merci beaucoup. Mais nous souhaitons, non pas que tu montes en chair à tout prix, parce que c'est vraiment, là on fait ce qu'on peut, mais voilà, on est très heureux de t'avoir avec nous ce matin, à nouveau au Temple. Je vous invite à la prière. Éternel béni, Lison et Thaïs, et leur chemin de vie avec toi sera une lumière. Permets qu'elles puissent toutes les deux donner corps à ta parole dans ce monde, qu'elles soient toutes les deux porteuses d'espérance et qu'elles reçoivent cette espérance chaque jour de la part de tes témoins, qu'ils soient scripturaires avec la Bible ou bien qu'ils soient hommes, femmes de notre temps, qui lui donne, qui lui transmette cette parole d'espérance. Nous te prions, Éternel, pour notre monde dont la chair est meurtrie, pour notre monde en guerre, pour toutes les femmes et les hommes et les enfants qui souffrent de la guerre. Et nous voulons te remettre ce matin l'Ukraine. Nous avons prié ici, nous avons espéré, secrètement peut-être, que ce conflit ne durerait pas longtemps. Et nous voilà engagés devant tant de mois de conflit, avec tant d'horreurs déjà. Permets, Éternel, que la paix revienne, la véritable paix. Nous te demandons ton aide pour tous ceux qui peuvent avoir une influence et permettre que cette paix revienne. Éternel, nous te prions pour toutes celles et ceux dont le corps est malade et qui savent à quel point, quand le corps est malade, c'est tout entier qu'on est malade, qui savent à quel point, quand le corps souffre, combien le cœur est différent. Nous te demandons, Éternel, l'apaisement, la guérison et le salut pour tous ceux qui demandent ton secours, tous ceux qui demandent un secours à ceux qui incarnent les soins auprès d'eux. Éternel, nous te remettons toutes celles et ceux qui, dans leur corps, ne trouvent pas leur place et souffrent de ne pas trouver leur propre identité au sein même de leur enveloppe corporelle. Aide-nous à comprendre, à entendre, à accueillir cette plainte sourde et permets que nous soyons toujours là pour accepter cette réalité et aider ceux qui essaient d'y remédier. Nous te demandons, Éternel, d'être auprès de tous ceux qui n'acceptent pas leur corps et qui pensent qu'il vaudrait mieux qu'il ne soit pas là. Donne-nous des paroles réconfortantes et accueillantes, des paroles valorisantes, des paroles sincères d'amour pour que toutes ces personnes puissent trouver leur place dans ce monde avec ce qu'elles ont reçu. Éternel, nous te remettons notre vie physique et notre vie spirituelle, et nous savons que les deux sont intimement liés. Permets que nous puissions trouver le repos quand cette intimité spirituelle va mal, et permets que nous puissions trouver en toi l'assurance de ton salut. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes venus pour la petite Thaïs, et toi Lison qui es venue avec ta famille, vous êtes tous appelés à incarner la parole de Dieu dans ce monde. Que votre corps soit beau, beau pour ce monde, non pas beau dans le sens qu'on l'entend ou on l'entend d'habitude, mais de cette beauté qui fait que nous revêtons la spiritualité du Seigneur. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et vous garde en tout temps et de toute manière. Amen.